Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 17-19, le mag, c'est Leïla Djebbour et je suis ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous de l'actualité. Un tour d'horizon national et international sur les dernières tendances, les analyses et les prévisions en compagnie de nos collègues journalistes de la rédaction. Et au programme, le reportage du jour avec notre envoyé spécial Hajar Messaoudi, cap sur Msila, où le Premier ministre Sifi Riyeb a marqué une nouvelle étape dans la relance industrielle du pays. Deux projets majeurs ont été inaugurés. Et en Algérie, l'inflation continue de ralentir. Elle est passée à 2,7% en août contre 3,1% en juillet. Selon l'ONS, Rimbo Kadoum reviendra sur ces chiffres dans la chronique économique. L'instant santé, c'est avec Hassan Chemesh qui s'intéresse à la transplantation hépatique qui reprend en Algérie. Le professeur Kamel Bentebach et son équipe au centre Pierre et Marie Curie ont réalisé avec succès une greffe partielle du foie sur un jeune patient. Et l'actualité internationale, c'est dans Zoom sur le monde avec Sofia Boukersha qui s'est entretenue avec Bedis Renissa, expert en relations internationales, pour revenir sur la crise majeure en France. Et nous suivrons en deuxième partie de ce magazine l'entretien de Rimbo Kadoum avec le président Denis Algérie en marge du NAPEC. Ils reviendront sur le rôle essentiel des entreprises énergétiques dans le développement du pays. Et nous retrouverons Hakima Kamel pour clore la 13e édition du NAPEC avec un deuxième entretien sur la transition énergétique. Tout ça c'est dans le magazine et c'est jusqu'à 19h en votre compagnie. Avamax, Torn sur Algéchien 3 est dans le magazine pour vous accompagner. On passe tout de suite au reportage du jour.
Le reportage du jour.
À Amsila, le Premier ministre Sifir Rib, inaugure deux projets industriels majeurs aujourd'hui, une unité de production de fer à béton et une usine de véhicules et pièces de rechange. Notre envoyé spécial Hajar Moussaoudi était sur place pour nous en dire plus.
Ce qu'on peut vous assurer, c'est que
ce sont là les propos du Premier ministre Sifir Rib. Une nouvelle page, celle de la relance des projets confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption. Sur le terrain, Amsila, il a réaffirmé la volonté de l'État de redonner vie à ces unités industrielles, symbole d'un retour à la production nationale.
Il est rassurant de constater que ces projets ont retrouvé vie grâce aux compétences 100% algériennes. C'est un point positif qui renforce la confiance dans les cadres nationaux et prouve une fois de plus que l'Algérien est capable de relever tous les défis à condition qu'on lui en donne l'opportunité.
Et ce travail de relance est déjà en marche, à l'image de Fondal, une entreprise spécialisée dans le fer à béton, remise en activité après 6 années d'arrêt.
Les anciens qui travaillent ici dans le fer à béton, en 2018, nous avons travaillé dans le fer à béton. L'essentiel, nous avons commencé en août, septembre, octobre, nous avons tout l'essentiel, nous avons rentré jusqu'à l'arrivée.
Une relance rendue possible grâce à des compétences 100% algériennes, déterminées à redonner à l'usine son souffle d'avant.
Tarak Bennia, chef de projet de l'entreprise Fondal.
Ce projet contribue à répondre aux besoins du marché local, à réduire la facture d'importation et à offrir des emplois durables à long terme, avec 450 postes prévus.
Sur le plan économique, le Premier ministre a mis en avant le référentiel de l'intégration nationale, achevé à 80%, un outil qui permettra de cartographier les capacités locales de production et de mieux orienter les investissements dans l'industrie mécanique et automobile.
Le référentiel de l'intégration nationale pour la fabrication des véhicules et dans la base de rechange,
Et pour accompagner cette dynamique, deux nouvelles unités d'emboutissage et de plasturgie entreront bientôt en production, afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées et composants automobiles.
On est en train de faire de l'expertise technique, les machines sont là et on va augmenter en crescendo et rapidement le taux d'intégration. Nous avons le référentiel de l'intégration nationale.
Ces deux nouvelles unités vont renforcer le taux d'intégration locale dans la filière automobile. Elles s'inscrivent dans la stratégie d'industrialisation des importations avec un effet direct sur l'emploi et la valeur ajoutée nationale.
C'était le reportage du jour avec notre envoyé spécial Amsila, Hajar Moussaoudi. Et on passe tout de suite à l'actualité économique dans ce magazine.
Économie.
En Algérie, l'inflation continue de ralentir. Elle est passée à 2,7% en août contre 3,1% en juillet selon l'ONS. Rimbo Kadoum revient sur ces chiffres.
Le rythme d'inflation annuel en Algérie a reculé à 2,7% en août contre 3,1% en juillet selon les chiffres publiés par l'Office national des statistiques, un signe encourageant reflet d'une dynamique économique qui s'installe dans le pays. Derrière cette baisse, c'est tout un mouvement interne qui s'affirme. La production nationale reprend du terrain, notamment dans l'agroalimentaire et l'industrie. Autrement dit, le pays consomme davantage ce qu'il produit et cela se ressent dans les prix. Pour le citoyen, cette désinflation apporte une bouffée d'air. Les prix des produits de première nécessité se stabilisent et certaines denrées affichent même des baisses sensibles. Le pouvoir d'achat retrouve donc un peu de souffle porté par cette tendance à l'apaisement. Cela témoigne aussi de l'importance du maintien et de la préservation du pouvoir d'achat à travers une politique économique qui soutient la production nationale et stabilise les prix à long terme. L'enjeu désormais, ancrer cette évolution positive dans une croissance durable où chaque dinar conserve sa valeur dans le panier du consommateur algérien.
C'était la chronique économique avec Rimbo Kadoum. Petite pause musicale dans ce magazine avec Djemaoui, Africa Hmama.
زين جهد زين فيت عليا
يا لا 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 لا
يوم مشي حمامة والقمري فيا
يا لا لا لا
يا منين الأصل يا الخمرية
يا لا 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 لا
مزيغية بين جزائرية أو بين الأصل سلالة فيك
سين
والحشمة في البلد عيني قلت همة والمشية ودي
شاوي
عليا بالخيل ندي
لا لا ويا لا لا
أمين جهد زين فيت عليا
يا لا 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 لا
يا والمشية حمامة والقمر فيا جات منين هاد بنيا
يا لا 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 لا
في المدينة ساكنة ولا بدوية
يا لا ويا لا لا
مقامها في العلالي ولا الوطايا
يا لا 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 لا
يوم مهرك صوب غالي كاف عونيا سب سب عليالي ونزيد نهار
سلام
أصلا تجيبك لدار غيطة وبارود من الجار الجار فرحة فيك انت يوم ليها عبار
لا ويا لا لا
ومنين جهد الزين فيت عليا
يا لا 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 لا
يا والمشي حمامة والقمري فيا مشات قدامي ضوت لي المكان
يا لا 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 لا
تحلي العيون سوداني دينات وميزان
يا لا ويا لا لا
حمر الخطوط خلاني نبغيها بالعيان
يا لا 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 لا
وهذا الزين حقاني تمنيتو من زمان في عيني ونغمض عيني زين قبلي يجيب العشاق لي
تعبيني
شوية وقبلي نجي
حيني
غمام من نظرة في
يا لا ويا لا لا
منين جاد الزين فيت عليا
يا لا 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 لا
المشي حمامة وقمر فيا صل ولا ليليا هذه بنت بلادي مزيغية
هذه بلادي ومدرفيا
شباب في قلبي ومحفوظة عليا
هذه بلادي ومدرفيا
بيلي ومن الصحراء والشاوية
هذه بلادي ومدرفيا
ترقية في الأصل ولا ليليا
هذه بلادي ومدرفيا
بنت بلادي ومزيغية
هذه بلادي ومدرفيا
شباب في قلبي ومحفوظة عليا منين هاد ابنيا
de l'actualité et de la bonne musique pour vous accompagner dans ce magazine. On passe tout de suite à l'instant santé.
L'instant santé avec Hassan Chemesh.
La transplantation hépatique reprend en Algérie. Le professeur Kamel Bentabak et son équipe au centre Pierre-Marie Curie ont réalisé avec succès une greffe partielle du foie d'un jeune patient avec celui de sa maman. Hassan Chemesh revient sur cette intervention dans cet entretien.
Professeur Kamel Bentabak, bonjour.
Bonjour, monsieur Chemesh.
Vous êtes chef du service chirurgie oncologique et transplantation hépatique au centre Pierre-Marie Curie. Professeur, vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. en exclusivité.
Tout à fait. Nous avons repris la transplantation hépatique. Nous avons repris la transplantation après un arrêt qui a duré près de 2 ans parce qu'il fallait se remettre aux normes, refaire un nouveau bloc opératoire avec des critères internationaux. Donc, après ces 2 années, on reprend la transplantation hépatique. Cette reprise, bien sûr, on la doit aussi à nos autorités qui nous ont accompagnés, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité et du Travail, à travers la CNAS également, mais aussi tous les efforts que font notre administration du Saint-Pierre et Marie Curie.
Professeur Bentabak, c'est un travail d'équipe, c'est multidisciplinaire, n'est-ce pas ?
C'est multidisciplinaire, c'est de la réanimation, c'est de la radiologie, c'est des laboratoires, c'est de l'hépatologie, c'est un centre de transfusion sanguine, c'est la néphrologie, la cardiologie. Donc vous comprenez que c'est en fait tout un hôpital qui est derrière un acte de transplantation hépatique.
Professeur, parlez-nous du donneur et du receveur.
C'est un fils qui a donné à sa maman, c'est donc on les appelle un couple, qui avait perdu espoir puisqu'il pensait partir à l'étranger pour se faire transplanter. Il n'arrivait pas, ça coûte énormément cher. Le transfert à l'étranger est compliqué. Ça ouvre une nouvelle porte, un espoir à nos malades pour une prise en charge en Algérie de leur maladie.
Professeur, ils vont bien, le fils et sa maman.
Écoutez, on va dire alhamdoulilah. Le fils s'est réveillé juste après donc l'intervention, il va très bien. D'ailleurs, ce matin, on a pu discuter un peu ensemble et je l'ai en arabe, en même temps, par rapport à sa maman.
Rassuré.
Je l'ai rassuré, elle va bien. Les examens biologiques, mais radiologiques effectués ce matin sont très rassurants. Il y a une bonne vascularisation du greffon, il y a de bonnes constantes hémodynamiques, et si tout va bien, elle pourra être extubée durant la journée, et il pourra ainsi peut-être même parler avec sa maman.
Professeur Bentabak, c'est une intervention qui a duré combien d'heures ?
Ah, écoutez, l'intervention a pris toute la journée. On a commencé le matin à 8h, 8h30 avec le donneur. Et puis après, on a enchaîné avec la receveuse. Et donc, ça nous a pris jusqu'en début de soirée, on va dire 21h quand même. Donc, c'est toute une équipe qui était mobilisée du matin au soir. Donc, les réanimateurs, l'équipe chirurgicale, d'ailleurs, que je remercie énormément. Notre ami radiologue, professeur Faraoun, qui nous a accompagnés. Et tout le staff qui nous a accompagnés, notamment le centre de transfusion sanguine du CHU du staff.
Professeur, j'imagine que la liste des malades est très longue. Est-ce qu'on ira vers la généralisation de ces interventions pour toucher d'autres centres à travers le pays ?
Un seul centre de transplantation ne suffira pas. Donc l'objectif que nous nous sommes fixés avec d'ailleurs les autorités, c'est de commencer ici sur Alger, donc au niveau du Saint-Pierre et Marie Curie, et puis après accompagner les équipes de l'Est, de l'Ouest, pour implémenter un programme de transplantation hépatique, mais aussi, pourquoi pas, et d'ailleurs j'encourage les chirurgiens pédiatres, justement, à développer un programme de transplantation. Et puis, nous, on est là pour les accompagner, pour le prélèvement chez le donneur. Et puis même, s'ils ont besoin de nous, leur donner un coup de main lors de la transplantation chez le petit enfant.
Un dernier mot, professeur Kamel Bentabak.
Je suis plein d'espoir. On fera tout pour prendre en charge nos malades localement. Si on porte cette blouse, en fait, c'est pour traiter nos patients. Et c'est la mission que nous nous sommes assignés dès lors qu'on a eu notre diplôme de médecin.
Professeur Kamel Bentabak, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'était l'instant santé avec Hassan Chemesh et on revient dans quelques instants dans le magazine avec d'autres actualités après une pause musicale. Jalte, sallu ala nabina.
البشرى يا زين البشرى صلوا على النبي يا وزير الحضرة يا أبو الباتول وفاطمة الزهراء عليك نقول ونقول نحفظ ونقرأ وذكرك نروى
صلوا على النبي
واصحابه عشرة
محمد بن
عطاء ياسين البشرى عشرة
محمد
من الله يا زين البشرى
صلوا عليه صلوا
أبيك روح لأو معاكم
تعالوا
وطريكم تضوى
صلوا على النبي
محمد القطر. Le magazine de la 3 pour vous accompagner jusqu'à 19h et tout de suite on passe à l'actualité internationale.
Zoom sur le monde.
En France, la crise politique atteint un niveau historique. Sophia Boukercha s'entretient avec l'expert Bédis Renissa pour analyser l'ultimatum lancé par Emmanuel Macron à son premier ministre et les scénarios possibles pour l'avenir politique du pays.
La France traverse l'une des crises les plus profondes et les plus marquantes de l'histoire de la Ve République. Le pays est plus que jamais fragilisé. Aujourd'hui s'achève le délai donné par le président Macron à Sébastien Lecornu pour des négociations. Bédis Renissa, bonjour. Vous êtes expert en relations internationales. La France se trouve-t-elle aujourd'hui à un tournant majeur de son histoire politique? Et quels sont les scénarios envisageables dans cette crise?
Oui, effectivement, la France aujourd'hui se trouve sans conteste à la croisée des chemins. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, véritablement, dépasse la simple crise de gouvernance. C'est une crise de confiance systémique entre l'État et la nation, une crise de régime, notamment entre la légitimité du pouvoir et la représentativité populaire. La Ve République est clairement fondée jusque-là sur la verticalité du pouvoir, a l'air de vaciller sous le poids d'une société devenue plus horizontale, plus revendicative aussi. La démission de Sébastien Lecornu, de mon point de vue, sonne comme un aveu d'impuissance. Désormais, trois scénarios se dessinent pour Emmanuel Macron. Alors, le premier, c'est celui du compromis. Un sursaut de responsabilité où majorité et opposition s'accordent sur un pacte de stabilité minimal, un gouvernement de mission, le tout pour tenter de sauver la stabilité nationale. Encore une fois, il lui faudra un premier ministre consensuel et ce qui manque aujourd'hui à la classe politique française. Le second, c'est celui de la confrontation. C'est celui de la dissolution notamment du Parlement. C'est une solution périlleuse et très dangereuse. Elle pourrait à terme amplifier le chaos, mais surtout offrir une espèce de tremplin inédit au Rassemblement national, à l'extrême droite, et surtout une recomposition brutale du paysage politique français. Et enfin, le dernier scénario, c'est celui de la refondation politique, qui passerait par un éventuel dialogue national et surtout une remise à plat du contrat social, du contrat politique et du contrat démocratique. Et pour finir, 48 heures d'ultimatum donné par Emmanuel Macron à Sébastien Lecornu, en vérité, c'est le temps, j'ai envie de vous dire, du sursaut ou celui du basculement.
Dans une ultime tentative, le président Macron a accordé 48 heures au Premier ministre Sébastien Lecornu pour mener des négociations de la dernière chance. Que pourrait-il se passer à l'issue de ce délai, Monsieur Renissa?
Ces 48 heures, sont un compte à rebours politique pour la France. Donc deux options effectivement s'offrent à Sébastien Lecornu, qui, je rappelle, a précisé son rejet d'être maintenu comme Premier ministre. C'est ou réussir un accord de stabilité autour d'un programme de survie politique, ou échouer, entraînant de facto la fin de son gouvernement et peut-être même une crise institutionnelle ouverte et chronique. Donc Lecornu aujourd'hui incarne la dernière carte d'un président isolé, d'un président qui cherche un équilibre entre autorité et ouverture. Donc si ces négociations échouent, l'Élysée n'aura plus de marge de manœuvre et ni de porte de sortie d'ailleurs, ou le remaniement radical, ou effectivement la dissolution du Parlement.
Vous venez justement d'évoquer la possibilité d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Cette hypothèse se profile de plus en plus et est même réclamée par certains partis politiques. Quelles en seraient les conséquences ?
Une dissolution aujourd'hui serait un pari à très haut risque pour la France. Constitutionnellement, elle est effectivement légitime, mais politiquement, elle est explosive pour la France. Elle pourrait, certes, in fine, redonner peut-être la parole au peuple, mais en même temps, dans un contexte, n'oublions pas, où la colère domine, le vote, sanction notamment, serait quasi inévitable lors de ce suffrage. Les conséquences seraient aujourd'hui cataclysmiques. Et elle serait surtout double, à savoir d'abord sur le plan institutionnel, une nouvelle dissolution sans majorité claire plongerait le pays dans une crise prolongée, voire même dans un blocage durable du fonctionnement parlementaire. Et ensuite, vous avez sur le plan politique où effectivement elle accélérerait la recomposition, voire même la polarisation du paysage français, où les extrêmes pourraient même sortir renforcés.
La démission du président Macron est-elle envisageable ? Certaines formations politiques appellent à son départ. Est-ce une issue crédible à l'impasse institutionnelle actuelle ?
La démission du président de la République, Emmanuel Macron, serait effectivement un séisme politique. Elle n'est pas impossible juridiquement, ni constitutionnellement, mais hautement improbable politiquement. Emmanuel Macron a bâti son pouvoir, n'oublions pas, sur la résilience, sur la verticalité, sur l'emprise, sur le monopole politique. Donc démissionner aujourd'hui reviendrait à renier l'ADN même du macronisme, j'ai envie de vous dire. Donc cependant, il faut reconnaître qu'une telle hypothèse effectivement traduit l'ampleur d'abord du malaise, appelé d'ailleurs par même son propre camp, hein, je rappelle Édouard Philippe a appelé à des élections présidentielles anticipées. L'exécutif devra changer de méthode, d'incarnation et de cap, surtout si il veut restaurer la confiance.
Justement, cette crise politique inédite semble profiter à l'extrême droite, lui permet de progresser dans les sondages. Peut-on dire aujourd'hui que la situation actuelle constitue une opportunité historique, entre autres pour le Rassemblement National, Monsieur Renissa ?
La nature a horreur du vide, comme on dit. Donc effectivement, le Rassemblement National se nourrit aujourd'hui du vide laissé par la décomposition du centre conjugué à la fragmentation des blocs traditionnels. Ce n'est pas d'ailleurs seulement une progression électorale, c'est une dynamique d'appropriation, notamment du récit national et du récit politique français. Donc Marine Le Pen et Jordan Bardella capitalisent clairement sur ce que j'ai qualifié de fatigue démocratique en France. En même temps, il faut faire attention, cette opportunité historique ne garantit pas une capacité de gouvernance. Le RN a certes effectivement franchi le seuil peut-être de crédibilité alimenté par cette conjoncture, mais il lui reste à franchir le seuil de la compétence effective, notamment. Donc en vérité, cette crise met en l'occurrence la République face à un dilemme. C'est soit elle se réinvente un centre fort, surtout inclusif, soit elle livre le pouvoir aux marges et aux extrêmes.
Merci Monsieur Badis Renissa d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales.
C'était Zoom sur le monde avec Sophia Boukersha. Petite pause musicale avec Bruno Mars, Fly As Me. 1, 2, make you wanna...
Okay, now have you ever been with a player? Take you downtown where they treat me like the mayor. Take you to the crib where you take it upstairs. What's upstairs? Shit, I'ma show you later. Don't need a spatula, everything catered. Extra flavor. Go ahead, sprinkle some truffle on your mashed potatoes. I'm trying to love you. Is you gonna love me back? Y'all only get what you give. Ain't you heard of that?
Float like a butterfly on every single track. And the only language that I speak, girl, is back. So once I give this game to you, I can't take it back. Hollering at you from a 1977 Monte Carlo. Hard act to follow. It's showtime, trying to boo you up like it's the Apollo. Your walk is vicious. Let's get down to business. You and me together. Woo, that's something different. Ooh, come on.
I don't ask for much.
Et on revient au reportage avec les émanations de monoxyde de carbone souvent liées à des appareils de chauffage à gaz défectueux représentant un danger sérieux pour les foyers. Mayal Kenz revient sur les risques et explique comment le détecteur de monoxyde de carbone peut prévenir ces accidents domestiques.
En cette période automnale, de nombreux consommateurs sont conscients de l'importance de rester vigilants face aux dangers du monoxyde de carbone. Certains affirment s'être équipés de détecteurs tout en demeurant attentifs à la qualité des appareils proposés sur le marché.
Je compte installer à la maison un détecteur de monoxyde de carbone. Un spécialiste, il viendra l'installer à la maison, il s'y connaît bien sûr, et essayer le tout. Je suis très vigilante concernant cela pour éviter tout risque d'inhalation de ce gaz.
J'en ai acheté deux chez un magasin qui vend l'électroménager, bien sûr certifié parce que faut bien choisir le modèle. Je les ai placés moi-même, un pour la cuisine et l'autre pour le couloir. Là où il y a le chauffage, c'est l'endroit principal en évitant l'accident, Inch'Allah.
Je l'ai depuis une année. Mon mari l'a installé tout seul sans recourir à un spécialiste du domaine. On a eu une petite fuite l'année dernière sans que le détecteur ne la signale. Alhamdoulilah, on l'a su à temps. On a constaté que ce détecteur n'est pas conforme aux normes, donc on compte ramener un spécialiste pour nous réinstaller un autre détecteur plus fiable et plus efficace afin d'éviter tout accident dû à ce gaz toxique.
La protection civile recommande l'usage de ce type d'appareil capable de sauver des vies. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile.
Il est indispensable de mettre en place un détecteur de monoxyde de carbone. C'est un outil très efficace pour la détection de tout gaz émanant, notamment le monoxyde de carbone. C'est un plus pour la sécurité du citoyen chez soi, avec le respect des consignes de sécurité, de prévention avec l'aération, l'entretien des appareils, des chauffins, des chauffages. Ce détecteur nous met à l'abri, nous donne des alertes s'il y a émanation du détecteur de monoxyde de carbone de n'importe quel appareil. La protection civile accompagne la sonde à gaz pendant l'installation de ce détecteur. Un conseil pour les citoyens, bien respecter, ne pas le déplacer, ne pas l'enlever, aussi toujours le contrôler, le vérifier, ainsi que le bon fonctionnement de ses batteries.
Près de 17 millions de détecteurs de monoxyde de carbone ont été installés au niveau des foyers et l'opération se poursuit. Fatma Zohra Merzougui, directrice de la communication à Sonelgaz.
La priorité a été accordée au wilaya des Hauts Plateaux où l'on a lancé l'opération le mois d'avril 2023 et où l'opération est achevée à ce jour et l'on continue à mener la deuxième phase de cette opération sur les wilayas du littoral et les wilayas du sud. Le nombre total de détecteurs qui ont été posés à ce jour dépasse les 16 520 000 détecteurs à travers le territoire national et nous ambitionnons d'achever l'opération à la fin de l'exercice en cours.
Un plan de communication accompagne l'opération d'installation des détecteurs de monoxyde de carbone. Selon Sonel Gaz, plus de 500 000 clients étaient absents lors du passage des agents et peuvent se rapprocher des agences pour une nouvelle installation. Le groupe signale aussi 15 000 refus de pose. Les campagnes d'information se poursuivent jusqu'à atteindre l'objectif de 22 millions de détecteurs installés.
C'était le reportage de Maya Alkins, la suite en musique dans le magazine 4 Minutes, Justin Timberlake en featuring avec Madonna. La suite du magazine avec le point route au 021 48 15 15. La suite de l'actualité dans ce magazine, dans la deuxième partie avec de l'économie et de la culture jusqu'à 19h.
That I don't stand a chance. don't care a bag of beans for me. Unchain my heart of fleas. Let me free, girl. All right.
Il est 18h, vous retrouvez le sommaire avec Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir.
Leïla Djebbour, bonsoir. Bonsoir à tous et au sommaire. Le président de la République a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue égyptien, Abdelmadjid Tebboune Abdel Fattah. Sisi ont évoqué la situation ou les situations dans leurs régions respectives, souligné la profondeur des relations bilatérales, le renforcement. Ils se sont entendus pour la tenue dans les plus brefs délais de la grande commission mixte algéro-égyptienne. Le président Tebboune qui a félicité son homologue pour l'élection de son pays à la tête de l'UNESCO. L'exécutif réunit aujourd'hui autour du Premier ministre Sifir Liyeb plusieurs dossiers en examen, les énergies renouvelables, la stratégie en la matière, la gestion de l'eau et l'approvisionnement des populations, mais aussi l'examen de l'avant-projet de loi sur le règlement budgétaire 2023. Les walis de la République instruits pour redoubler d'efforts pour améliorer l'hygiène urbaine, instruction du ministre de l'Intérieur, Saïd Saïd et sa collègue de l'environnement Kauthar Kalikou ont présidé une réunion aujourd'hui sur la question avec l'ensemble des walis du pays. Le NAPEC d'Oran, une réussite à tout point de vue, les organisateurs l'ont souligné au terme de la 13e édition, le plus grand rendez-vous des hydrocarbures sur le continent et en Méditerranée, occasion de nombreux contrats avec des partenaires étrangers qui ont relevé l'attractivité de l'Algérie dans le domaine. Il y a 63 ans, le drapeau algérien a été hissé aux Nations Unies, c'est la journée de la diplomatie algérienne. En ce 8 octobre, occasion de souligner le rôle de notre diplomatie, ses principes et ses actions, notamment actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU et dans la résolution des conflits. La France, et c'est fin de délai accordé par le président français au Premier ministre pour trouver un compromis et une issue à la grave crise politique dans le pays. Le Premier ministre démissionnaire n'a toujours pas rendu sa réponse. La classe politique rejette les tentatives de Le Cornu. L'extrême droite se positionne. Les négociations indirectes reprennent ce soir à Sharm el-Cheikh sur le plan Trump de cesser le feu à Gaza. Les délégations qataries et turques des discussions sur le terrain. L'entité sioniste s'acharne sur le peuple palestinien. Le Conseil de sécurité devra se réunir ce soir sur la question du Sahara occidental. L'émissaire de l'ONU, Demistura, y prendra et répondra, présentera son rapport. Des dizaines de juristes et défenseurs des droits de l'homme dénoncent l'occupation illégale du Sahara occidental à la commission de décolonisation onusienne. Et puis les Verts arrivés à Oran en prévision de leur match comptant pour les éliminatoires mondiales 2026. Ils affronteront demain la Somalie. Et à 18h02, la météo c'est tout de suite et c'est avec Leïla Tchoupour.
C'est l'heure de la météo avec Gamme Assurance. Gamme Assurance, votre protection et notre engagement.
Bonsoir à tous. Sur les régions nord, littoral intérieur et au plateau, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, devenant progressivement voilé à localement nuageux à l'ouest en soirée, avec quelques foyers orageux isolés par endroits. Les vents seront variables de 15 à 30 km heure, pouvant atteindre 30 à 40 km heure de secteur est, près des côtes du centre, avec des rafales sous orage. Dans les régions sahariennes, le temps sera voilé à localement nuageux, notamment de l'extrême sud vers le Hogarth à Sili, où quelques orages isolés pourraient se développer et donner de faibles pluies locales. Ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé avec des vents d'est à nord-est qui souffleront de 20 à 30 km heure entre la frontière algéro-malienne et le Sahara central et oriental. Les températures pour ce soir, il fera 11 degrés à Stef, 13 degrés à Annaba et Constantine, 14 degrés à Tizi Ouzou, 16 degrés à Alger, 17 degrés à Chlef, 20 à Ardaya, 21 degrés à Djanet, 20 à Ain Salah, 30 degrés à Bourg.
C'était la météo avec Gamme Assurance. Gamme Assurance, votre protection et notre engagement. We'll be right back.
Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine pour vous accompagner. On commence avec l'actualité sportive et c'est avec vous Hamza Rahmouni. Bonsoir.
Bonsoir Leïla.
On commence avec le football à J-1 du match décisif contre la Somalie. Les Verts sont à pied d'œuvre à Oran.
Les Verts qui sont à 90 minutes du rendez-vous des Amériques et cette Coupe du Monde 2026 sont arrivés à Oran au milieu de journée. Ils ont été accueillis par les autorités locales de la wilaya d'Oran. Une dernière séance d'entraînement sera programmée pour cet après-midi. D'ailleurs, elle se déroule en ce moment même à Oran en prévision de cette rencontre prévue demain face à la Somalie à 17h au stade Miloud Hedfi d'Oran pour le compte de la 9e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Ça concerne le groupe G et l'Algérie qui a l'intention donc de remporter cette rencontre et valider de manière officielle son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Les Algériens qui ne sont qu'à une victoire d'une 5e participation de leur histoire en Coupe du Monde après les éditions de 1982. Cette première qualification historique de l'Algérie en Coupe du Monde, c'était face au Nigeria à Constantine et en phase finale du Mondial. Cette victoire historique face à l'Allemagne qui était champion d'Europe en titre, faut-il le rappeler. Et puis cette élimination amère avec 6 points, l'Algérie avait donc fait ses adieux à la compétition dès le premier tour, d'où il y a eu le changement de la réglementation qui désormais oblige les derniers matchs à se jouer à la même heure. Il y a eu également les qualifications de 1986, de 2010 après ce fameux match d'Omdagman face à l'Égypte et la qualification de 2014 au Brésil. Face à la lanterne rouge de ce groupe G, la Somalie, qui compte un seul petit point à son actif, les Algériens demeurent les grands favoris de cette affiche. La sélection nationale qui n'a concédé qu'une seule défaite depuis le début de ses qualifications, c'était au stade Nelson Mandela de Bagarty face à la Guinée 2-1. Devra donc afficher plus de réalisme offensif et de maîtrise collective pour éviter toute mauvaise surprise. Bien évidemment, les Algériens qui ont échoué à se qualifier pour les deux précédentes Coupes du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Leur dernière apparition remonte au Mondial 2014 au Brésil avec une qualification historique en 8e de finale. Alors, côté effectif pour les Verts, ils seront privés de pas moins de 5 joueurs. On connaît les absences avec le défenseur Mohamed Faxi qui évolue à Columbus aux États-Unis, Ryan Aitnouri de Manchester City, Youssef Attal de Sedd et Mohamed Amin Tougaï de l'Espérance de Tunis, sans oublier bien évidemment le milieu offensif Houssam Aouad qui évolue à l'Ittihad de Jeddah. En revanche, ce rendez-vous vous devrez permettre à 4 joueurs de signer leur grand début avec les Verts. Tout d'abord, le gardien de but qu'on va écouter de Granada en Espagne, Luca Zidane.
Content d'être en Algérie et pour ma première sélection, c'est une fierté.
On espère pouvoir gagner le prochain match pour une qualification pour la Coupe du Monde.
Il y aura également les défenseurs, Anafir Belrali de Hellas Vérone, Samir Changui du Paris Football Club, Mehdi Dorval de Bari. On va écouter à ce propos le défenseur du FC Paris, Samir Changui.
Pour les supporters, je leur donne un message. Parce que je sais qu'ils sont derrière leur peuple, c'est des vrais servants, des vrais ferveurs. C'est que je vais me donner à fond jusqu'à la fin de ma vie, je vais me tuer pour l'équipe. Ils m'ont bien accueilli, que ce soit de la part de tout le monde, du staff, des joueurs. Tu sens que c'est une famille.
Je rappelle alors le classement de ce groupe G, l'Algérie en tête avec 19 points à 4 longueurs de ses poursuivants directs, le Mozambique et l'Ouganda qui comptent 15 points chacun, la Guinée 4e avec 11 points devant le Botswana 9 points et enfin la Somalie, l'adversaire de demain avec un seul petit point Somalie-Algérie demain à partir de 17h au stade Miloud Hedfi d'Oran, et l'Algérie qui bouclera ses qualifications en recevant mardi le 14 octobre l'Ouganda au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou à 17h toujours à l'occasion de la 10e et dernière journée des qualifications de la Coupe du Monde Zone Afrique. En parlant des qualifications de la Coupe du Monde Zone Afrique, avec l'Égypte qui est pour l'instant qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, qualifiée officiellement, l'Égypte qui mène à la mi-temps 2-0 en déplacement à Djibouti, alors que son poursuivant direct, le Burkina Faso, mène en déplacement face à la Sierra Leone 1-0. L'Égypte qui, en cas de victoire, compterait 23 points et du coup, les Pharaons sont assurés de manière officielle de disputer la prochaine Coupe du Monde. Le Cap-Vert, qui n'avait besoin que d'une victoire pour pouvoir assurer de manière définitive sa qualification pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde, a été contraint au partage des points par la Libye. Score 3 buts partout entre la Libye et le Cap-Vert. La Libye qui menait au score 3-1 à un quart d'heure de la fin a vu les Cap-Verdiens revenir à 3 partout. Le Cap-Vert qui compte désormais 20 points et dans l'obligation de battre l'Eswatini lundi prochain pour se qualifier définitivement en Coupe du Monde. En revanche, le Cameroun qui s'est imposé en déplacement aux îles Maurice, 2-0. Le Cameroun accueillera l'Angola également lundi prochain, 13 octobre, à partir de 14h. Le Cameroun doit gagner et attendre peut-être un faux pas du Cap-Vert pour renverser la situation, même si le Cap-Vert est en ballotage favorable.
Et la sélection nationale a prime peaufine sa préparation en vue du match amical face à la Palestine.
Un match amical prévu demain au stade du 19 mai 56 de Annaba à partir de 20h. Les Verts qui affronteront également la Palestine lundi prochain, 13 octobre, toujours au stade du 19 mai 56 de Annaba, sont en stage depuis dimanche, et les Verts qui effectueront aujourd'hui une dernière séance d'entraînement sur le terrain principal du stade du 19 mai 56 de Annaba, rappelant qu'hier tous les joueurs étaient opérationnels à l'exception de deux joueurs, Hussein Merizek et Mohamed Azzi, qui se sont entraînés en marge du groupe en individuel sous la supervision du préparateur physique des Verts. Pour rappel, la sélection algérienne tenante du titre arabe, faut-il le rappeler, est qualifiée directement pour la phase finale de la Coupe arabe FIFA 2025, alors que la Palestine devra affronter la Libye dans un duel unique prévu en novembre prochain à Doha, l'Algérie qui est versée dans le groupe D, en compagnie de l'Irak ainsi que les vainqueurs des deux matchs barrages. Le premier, Bahreïn-Djibouti, et le second entre le Liban et le Soudan.
Et enfin, le programme de la cinquième journée de Ligue dans le groupe Centre-Est a connu une légère modification.
Avec le match Mouloudiat Béjaïa, Tihad Beledi et Tchmis El Khachna comptant pour la cinquième journée du championnat de Ligue 2, groupe Centre-Est, initialement prévu le vendredi 17 octobre, a été avancé de 24 heures. Il se jouera le jeudi 16 octobre à partir de 15 heures. Les autres rencontres de cette journée dans le groupe Centre-Est ainsi que les matchs du groupe Centre-Ouest sont programmés le vendredi 17 octobre à partir de 15h après 4 journées de compétition. Dans le groupe Centre-Est, l'US Biskra et le Cap Batna sont conjointement leaders avec 10 points, tandis que dans le groupe Centre-Ouest et avec le même nombre de points, à savoir 10 points, on retrouve le RC Kouba et l'Azmodoran qui dominent ce groupe Centre-Ouest.
Merci Hamza Rahmouni, on vous retrouvera dans d'autres éditions pour d'autres actualités sportives. La suite du mag en musique, One More Time, Daft Punk pour vous accompagner et c'est jusqu'à 19h.
Time. one more time.
Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate.
88.4, 89.2 FM. Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine. On vous accompagne jusqu'à 19h de la musique et de l'actualité. Gada Diwan Bachar, Tariq Dalma.
Thank you.
Et si vous venez de nous rejoindre dans le magazine, soyez les bienvenus. On passe tout de suite à l'entretien de Hakima Kamel pour clore la 13e édition du NAPEC avec un deuxième entretien sur la transition énergétique.
Dans cette émission consacrée à la transition énergétique, mais aussi à l'introduction par le groupe Sonatrach, des actions en fonction des objectifs de réduction de l'empreinte de carbone. Nous sommes au NAPEC, à sa 13e édition et dernier jour du NAPEC. Nous abordons cette question puisque plusieurs compagnies pétrolières, gazières internationales se sont fixées des objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Le défi est mondial, il touche en priorité l'industrie des hydrocarbures. Les États, avec leurs compagnies pétrolières, des compagnies en hydrocarbures, se sont engagés et ont acté à l'occasion des conférences mondiales autour du climat leurs actions en faveur de cette réduction de l'empreinte carbone, de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des actions concrètes, quantifiables. Alors ces actions, évidemment, elles sont faites en aval, en amont, c'est-à-dire à l'extraction des matières premières, à leur transformation, à leur transport et à leur utilisation. Pour en discuter, Monsieur Khanfar Youssef, directeur central énergie verte et renouvelable du groupe Sonatrach, est avec nous pour répondre à certaines questions. Quelles sont d'abord les actions de Sonatrach pour la réduction de l'empreinte carbone dans toutes ses activités, comme nous l'avons dit, de l'amont à l'aval, des actions qui forcément doivent répondre à l'engagement de l'État lors de toutes les conférences autour du climat, Monsieur Khanfar?
Je vous remercie pour la question. En réalité, la transition énergétique, elle existe et on en fait face. Sonatrach, en tant que groupe pétrolier, fait autant que tous les autres groupes pétroliers, c'est-à-dire il prend en charge cette thématique avec des actions concrètes, bien sûr sous l'égide de ce qui va arriver dans l'avenir et toutes ces transformations qui sont en train de se faire, prenant en considération aussi le rôle du gaz et tout ce qui s'ensuit. Concrètement, sur toutes les activités de Sonatrach, il y a des actions qui sont en train de se faire depuis longtemps déjà. Car je voudrais rappeler les auditeurs que Sonatrach avait déjà commencé sa transition énergétique depuis 2012. Je vais rappeler aussi que la première station d'énergie renouvelable du CSP a été faite à Hasser Mella en 2012. C'est-à-dire que Sonatrach avait mis le pied dans cette transition depuis longtemps. C'est vrai que c'est un passage d'un système de consommation, d'un système qui est déjà là depuis 60 ans, c'est-à-dire basé sur les énergies fossiles, n'est pas facile. Donc la transition énergétique déjà en elle-même, c'est un pan sur lequel on doit travailler et ce n'est pas facile de passer d'un système énergétique qui a existé depuis 60 ans à un autre système de consommation parce que dans ce passage-là, il ne faut pas voir que le volet environnemental de la chose. Il y a des aspects économiques qu'il faut respecter aussi. L'entreprise doit mettre en avant tous les aspects économiques liés à cette transition énergétique. Elle doit mettre tous les aspects financiers et tous les aspects ressources humaines qu'elle doit aussi entreprendre aussi pour passer à cette transition énergétique. De vraies actions ont été faites, au fait, au niveau de Sonatrach.
Pour rester justement dans les motivations premières de cette transition, il y a donc l'aspect environnemental, il y a l'aspect économique parce qu'il y a forcément la fin des énergies fossiles. Dans 50, 60 ans, il y a une fin de cette énergie, donc il faut la remplacer par de nouvelles énergies. Et il y a aussi la nécessité de laisser, on va dire, un héritage aux générations futures. Donc, il y a trois triptyques qui conditionnent cette transition.
Exactement. Moi, j'allais dire que la transition énergétique est un défi global, que ce soit pour Sonatrach, pour le pays ou encore pour les autres pays. Mais il est complexe et urgent aussi, parce qu'il ne faut pas voir que la transition va se faire aussi rapidement. Comment dire ça? On ne va pas appuyer sur un switch on qui met relou pour vous dire, pour passer directement à la... Donc, c'est vrai, les changements climatiques sont là, ils sont réels, qu'on le veuille ou pas, mais nous devons transformer notre système énergétique vers des modèles, un nouveau paradigme, et aussi en faisant attention aux économies de ces projets-là.
On parle d'un bouquet énergétique, d'une transition. Alors, quel est le choix? Il y a une multitude, une panoplie d'énergies renouvelables, la biomasse et d'autres formules. Quel est le choix qu'a fait l'Algérie, le groupe Sonatrach, pour se concentrer sur des énergies qui ont un fort potentiel?
Vous savez, il n'y a pas réellement une compétition entre les énergies fossiles et les énergies. Ils vont s'accompagner jusqu'à 2050. Mais je suis convaincu d'une chose, que le gaz sera là. Le gaz est l'énergie fossile la moins polluante. Il pollue à moins de 50% que le charbon, par exemple. Et ça va être peut-être le futur substitut du charbon. En Algérie, on ne consomme pas de charbon, mais dans beaucoup de pays du monde, on consomme du charbon. Le gaz sera le futur substitut. Il va accompagner ce nouveau paradigme qui est les énergies, parce qu'il a beaucoup de flexibilité, donc il peut être appliqué dans différentes industries. On produit aujourd'hui du gaz avec l'électricité, il va réagir avec l'intermittence des énergies renouvelables. Donc le gaz, c'est un peu difficile de dire qu'il ne sera pas là et qu'il va accompagner. Au contraire, c'est un moteur, surtout pour nous en Algérie. Tout ce qui concerne les énergies renouvelables, vous savez, il y a multitude de façons de le faire. Tout ce qui concerne la réduction de l'empreinte carbone aussi, il y a de multitudes de façons de le faire. Je vais vous donner un exemple. Sonatrach, ça fait 10 ans de ça, elle torchait des milliards et des milliards de mètres cubes de gaz et qui ont une valeur économique, ces milliards de mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, on en est à moins de 3 milliards de mètres cubes, à moins de 2,8 milliards de mètres cubes de gaz torchés. Nous avons fait un effort énorme pour éviter ce torchage de gaz, voilà, dans l'amont pétrolier. Et c'est très important, vous savez, quand je dis qu'il y a une réduction de 6 à 7 à 8 milliards de mètres cubes durant la 7 dernières décennies, c'est comme si vous avez réalisé un nouveau projet. Et tout ça, il a une valeur économique et il a une valeur sur l'impact environnemental. Ça, c'est très important. Ça, c'est un premier volet. Une deuxième action, donc vous parlez du torchage. Le torchage, qui est une action quand même assez importante.
Qu'est-ce que ça nécessite, le torchage, comme technologie, comme connaissance?
Déjà, quand on torche, déjà, c'est pour éliminer les gaz dont on n'a pas besoin, généralement dans les projets à huile. Donc, on torche pour ces derniers temps. On commence à utiliser ce gaz, l'utilisation dans les centrales de production d'électricité, ainsi de suite.
De la valorisation.
On le valorise, au fait. C'est pour ça que je vous ai dit, éviter le torchage a une double fonction. Réduire notre empreinte carbone et aussi une valeur économique. Donc, nous avons l'intention de réduire presque à zéro torchage à l'horizon 2030 et c'est très important. Si nous arrivons à faire ça, c'est déjà quand même une action envers l'environnement et envers la valeur économique que crée le Sonatrach. Très importante. Le deuxième volet, c'est cette réduction de gaz à effet de serre, généralement le méthane. Le méthane, vous savez que le méthane, il a un impact doublement plus important que le gaz lui-même, que le CO2 lui-même. Donc, nous avons besoin de voir toutes ces fuites de méthane qui sont dans la partie activité upstream et aussi dans la partie downstream. Donc, le méthane, il y est partout. Les fuites de méthane sont partout. Aujourd'hui, nous avons un projet de détection de tout ce qui est fuite de méthane. Dans toutes nos activités, nous sommes en train d'utiliser des technologies très modernes, comme des caméras infrarouges. Nous allons utiliser des drones dans certaines zones. En même temps, les fuites de méthane peuvent être très nuisibles. Ils peuvent créer même des incidents et des accidents au niveau de nos activités. Ça a un aspect
sécurité. Un investissement a été fait sur...
Il y a des investissements qui sont en train de faire aujourd'hui au niveau de son affaire, qui est une direction qui s'occupe de ça et qui suit toutes ces actions dans les différentes activités de Sonatrach, que ce soit dans la partie transport ou encore dans les raffineries, dans les usines de LNG et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous avons besoin de détecter toutes ces fuites de méthane qui peuvent provoquer des incidents, des accidents sur le plan sécuritaire et aussi une perte aussi de certains volumes.
D'autres actions, d'autres amenées par Sonatrach dans les autres actions peuvent, dans le cadre de la réduction.
Dans le cadre de la réduction, ce qu'on est en train de faire dans le cadre des ENR, des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sites à Sonatrach, dont la majorité, 99%, fonctionnent avec du gaz, que ce soit pour la production d'électricité ou autre. Donc aujourd'hui, quand on installe une station photovoltaïque, elle a un double effet. Déjà, nous allons réduire notre empreinte carbone, que ce soit quand on installe dans l'upstream ou dans le stream, c'est la même. Donc, on évite ces émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Et secondo aussi, on économise du gaz. Si on produit de l'électricité avec une centrale photovoltaïque, c'est une meilleure façon d'économiser du gaz. Mais il faut trouver l'équilibre. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile que ça. Installer une centrale photovoltaïque nécessite des études de faisabilité, de préfaisabilité, quelle valeur économique on va rajouter et tout ce qui s'ensuit. Donc, les gens, peut-être de l'extérieur, voient que c'est un peu facile. Mais quand vous installez une centrale photovoltaïque, vous allez respecter le réseau, pour ne pas déséquilibrer le réseau électrique. Donc, il y a des choses à faire purement techniques et aussi qui doivent aussi répondre à une valeur économique créée. Sinon, ça ne sert à rien de le faire.
Est-ce qu'il y a eu justement des centrales hydroélectriques ou de forces?
Il y a, oui, déjà, il y a au moins 3 centrales, déjà, ou 4 centrales qui sont là. Il y en a avant, aujourd'hui, c'est des petites centrales de 10 à 20 mégawatts qu'on est en train d'installer, mais qui sont très importantes. Ça nous pousse déjà à réfléchir différemment. Au fait, la transition énergétique est un changement de mindset aussi. Les pétroliers, généralement, habitués à produire avec du gaz, sont dedans.
Et ta performance n'est pas la même.
La performance n'est pas la même. On est quand même une entreprise avec le côté économique de cette production qui est en train de révéler que les premières, peut-être, productions seront quand même à un rang élevé au niveau de leur prix, mais qui vont être réduits au fur et à mesure qu'on y travaille dessus.
Alors, que sont les différentes quantités souhaitées, envisagées pour chacune des énergies? Les énergies renouvelables, quels sont les objectifs de production, notamment pour l'hydrogène?
Vous savez, chaque pays doit adapter sa stratégie de production ou encore de son mix énergétique.
On parle de 15 000 mégawatts quand même.
Et les 15 000 mégawatts,
il y a des chiffres rendus publics.
On doit l'adapter par rapport à ce qu'on est en train de faire aussi sur le côté énergie fossile et aussi sur nos capacités, sur le réseau algérien, qu'est-ce qu'il est capable de supporter ou pas. On doit, par rapport aux investissements, on doit adapter nos investissements par rapport à ce qu'on veut. Le besoin national en énergie, quelle est notre capacité de transformer le besoin national en énergie fossile, le transformer en énergie renouvelable? À quel coût doit-on produire ces énergies renouvelables? Tout ça, c'est des éléments
qui
ont été étudiés et qui se transforment du jour en jour parce que vous savez, les choses sont en train de changer. Vous savez, le panneau photovoltaïque, ça fait 5 ans de ça, il avait un prix. Aujourd'hui, son prix est divisé par 5. Vous voyez, donc, chaque jour, il y a des données techniques et économiques qui changent. Vous avez aussi l'évolution de la technologie. Si vous faites aujourd'hui, si on avait fait des panneaux photovoltaïques simples, ça fait 10 ans de ça, aujourd'hui, le même panneau photovoltaïque, il est plus petit, il prend moins d'espace et il produit plus d'électricité. Donc, vous voyez, les choses sont en train de changer. On doit s'adapter à ces changements.
C'était l'entretien de Hakima Kamel dans ce magazine pour clore la 13e édition du NAPEC. Tudor Cinema Club pour vous accompagner Something Good Can Work dans le magazine et c'est jusqu'à 19h.
A little bit.
la suite avec cette dernière partie du magazine et nous retrouvons l'entretien de Rembo Khadoum avec le président Denis Algérie en marge du NAPEC. Ils reviennent sur le rôle essentiel des entreprises énergétiques dans le développement du pays.
Monsieur Giorgio Vecchini, bonjour. Vous êtes directeur général EMI Algérie. Que pouvez-vous nous dire sur votre présence et vos projets d'investissement en Algérie?
Donc, le climat des investissements, c'est quelque chose de très bien connu à EMI, en Algérie, parce que, comme vous savez, on a beaucoup de gros mains en place depuis beaucoup de ans. Et nous avons renforcé notre présence en Algérie dans les dernières années pour renforcer notre investissement et surtout la production qui est pour le marché national et aussi pour l'exportation. Donc, nous avons participé au processus de bid round lancé par Alnaft l'année passée au niveau de NAPEC. Nous avons pris avec PTT, la société thaïlandaise, le bloc de Regan 2 dans le sud. Et de cette manière, on a renforcé aussi notre participation dans l'exploration qui est encore très important pour amener plus de ressources dans le pays.
Est-ce qu'il y a des projets à venir pour 2026
sera... Bien sûr, nous avons signé avec Sonatrach dans le mois de juillet un nouveau contrat dans le bassin de Berkine. Et ça va amener plus d'investissements dans cette partie et donc il va amener plus d'activités pour encore une fois augmenter la production du gaz en particulier dans l'Algérie.
Elnaft va lancer prochainement un appel d'offres pour l'exploration. Est-ce que Eni compte participer, monsieur Giorgio Vecchini?
Oui, on va regarder qu'est-ce que ce sera l'appel d'offres que Elnaft, nous avons compris, va lancer dans les prochains mois. On va la regarder, on va l'étudier et on va évaluer notre participation.
Qu'en est-il du potentiel algérien en hydrocarbures, monsieur Giorgio Vecchini?
Oui, bien sûr, l'Algérie, c'est un pays très important. Il y a un futur, il y a beaucoup d'activités à faire. Et nous sommes en train de travailler très bien avec nos partenaires à partir de Sonatrach dans cette façon.
Vous êtes un partenaire stratégique de Sonatrach. Comment comptez-vous accompagner la démarche de la transition énergétique?
Transition énergétique, c'est toujours un argument très important. Comme vous savez, nous sommes engagés dans ces matières et nous sommes la première compagnie qui a fait des investissements aussi pour le solaire. Nous avons des projets solaires en place. Il y a des autres en cours. Donc, nous sommes très bien engagés dans la transition énergétique parce que nous sommes au courant que, oui, le gaz et l'huile, c'est encore toujours très important, mais on doit travailler ensemble pour le futur avec notre partenaire ici. Merci.
Merci à vous.
Et on termine avec une exclue et l'artiste David Vendetta qui célèbre la millième de son show mythique Cosa Nostra sur les ondes d'Alger Chaîne 3 en notre compagnie. David Vendetta est reconnu non seulement pour ses productions mais aussi pour son influence dans le mouvement house. Bonsoir David Vendetta.
Salut Leïla, salut l'Algérie.
Et ce soir, c'est un moment fort pour vous et pour tous ceux qui suivent votre univers depuis des années. On célèbre la millième de votre show mythique Cosa Nostra, 1000 mix, 1000 émotions, 1000 histoires qui ont marqué les nuits du monde entier. Et cette fois, c'est ici, dans le magazine, que vous soufflez cette bougie symbolique. Alors, première question, qu'est-ce que ça vous fait de fêter cette millième ici, dans votre nouvelle résidence, les ondes d'Alger Chaîne 3?
Oui, ben comme tu l'as dit, 1000 Cosa Nostra, 1000 radio show Cosa Nostra diffusés à travers le monde. Pour moi, c'est important parce que c'est un rendez-vous hebdomadaire avec mes fans qui me suivent depuis longtemps. Et mon but, c'est de faire découvrir pas seulement mes nouveautés ou mes remixes David Vendetta, mais également donc toutes les nouveautés musicales que j'aime, qui passeront pas forcément en radio, parce que soit elles sont trop club, soit elles sont trop dans un style particulier. Et puis, de toute façon, tous ne peuvent pas passer en radio. Donc, mon but, c'est de le faire découvrir. Et de la musique, en tout cas, que j'apprécie et que j'ai, moi, envie d'entendre et donc de la faire partager à mes fans.
David Vendetta, Cosa Nostra, c'est devenu plus qu'un simple show. C'est une signature, un son, une vibe. Et ce soir, cette millième, vous la célébrez avec nous ici. Dites-nous franchement, qu'est-ce que ça vous fait de fêter ce cap sur les ondes algériennes?
Eh bien, je suis très très honoré de pouvoir fêter donc cette millième et sur Radio Show Cosa Nostra, donc sur Alger chaîne 3. Je suis très fier de pouvoir être diffusé dans toute l'Algérie, et mon radio show est diffusé dans beaucoup de pays à travers le monde. Et ben, il me manquait l'Algérie, et franchement je suis très fier d'être résident chez vous. Et donc ça sera ce soir, tous les mercredis, en tout cas à partir de 20h. Et là c'est une émission spéciale, donc spéciale David Vendetta, entre des nouveautés, des anciens titres à moi, mais remix par d'autres DJ, donc beaucoup de choses inédites que la plupart n'ont jamais pu écouter. Voilà, donc c'est un beau cadeau pour tous mes fans et donc pour tous les auditeurs d'Alger chaîne 3. Et je vous remercie beaucoup.
Merci à vous David Vendetta de nous avoir fait cette exclusivité sur les ondes d'Alger chaîne 3 dans le magazine, et ce sera dans Playzone avec Fethi Bendali, que vous retrouverez ce soir avec l'intégralité du show et de cette millième Cosa Nostra. Et nous dans le magazine, et ben on vous dit au revoir parce que c'est déjà la fin, et merci d'avoir suivi ces deux heures d'information, d'actualité, que vous retrouverez la semaine prochaine avec toute l'équipe qui m'a accompagné. Morad à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et notre cher réalisateur Ali Laouissi. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station.